Alors, j'accueille avec plaisir Benoît Chalifoux. Je vous fais une petite présentation parce que vraiment, c'est un plaisir de l'avoir avec nous en studio. Alors, il est adjoint au vice-doyen à l'international, chargé de cours et gestionnaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il est devenu un conférencier international fort recherché et j'ai hâte qu'il m'en parle parce que c'est arrivé par un heureux hasard et vraiment, c'est un hasard fantastique. J'ai hâte qu'il nous raconte ça. Et c'est un peu comme si la vie avait pressenti qu'il avait beaucoup de talent pour vulgariser des notions complexes comme le management interculturel et les habiletés relationnelles qu'on appelle soft skills. Mm-hmm. Et ce sont sans doute ses habiletés qui lui ont permis de développer plus de 80 accords de partenariat avec les universités les plus prestigieuses du monde et d'enseigner aux quatre coins de la planète. Il a su faire du confinement lié à la COVID une œuvre utile. Bonjour Benoît.
Salut, comment vas-tu? C'est tellement de la musique à mes oreilles t'entendre me présenter. Je vais demander à ma douce moitié d'écouter ça très attentivement. Merci tellement. Merci de me recevoir.
Ben justement, paraît que c'est ta douce moitié qui a eu un petit peu un impact sur le fait que tu es devenu conférencier.
Tout à fait, en fait. Moi, je croyais pas. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu devenir joueur de soccer professionnel. Oui. Et mon rêve a pris fin avant qu'il débute. Et je me suis blessé gravement à une hanche. J'ai copié d'une hanche artificielle très tôt dans ma carrière. Et concours de circonstances, un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit « Benoît, tu dois me sauver la vie, tu dois donner une conférence lundi. » Mon conférencier m'a lâché. Je dis, j'ai jamais donné ça, moi, une conférence. Il dit, ouais, mais le thème, c'est l'humain, puis t'es bon avec les êtres humains, mm-hmm. puis tu communiques avec vivacité,
on
dynamisme.
On voit ça, on entend ça.
avec percussion. Et je dis, ben, OK, je vais y passer. Puis j'ai dit non. Et ma mm-hmm. femme, durant le week-end, a dit, voyons donc, t'es super bon dans la communication, tu devrais essayer. Qui sait? Et je me suis lancé dans l'arène, pas trop de contenu. Et je savais, à la fin de la conférence, qu'il y aurait eu un avant et un après, un peu comme ouais. la veille et l'après COVID, parce que les gens sont venus me voir, disent « Faites-vous ça en entreprise? » Je dis « Ben oui, tu sais, pourquoi pas? » Et aujourd'hui, je dois en avoir fait 500-600 conférences.
Un peu partout.
Partout dans le monde, ouais. Mais là, j'essaie de revenir au Québec parce que la COVID m'a montré que finalement, ce qui est le plus important, retourner à nos valeurs profondes, pour moi, c'est de savoir dire non à plusieurs projets pour savoir dire oui à plus le projet ouais. familial.
Oui, un vrai oui. Et j'ai une question, moi, qui est fondamentale et qui me passe par la tête depuis longtemps. On parle souvent des habiletés relationnelles avec leur thème anglais « soft skills ». Et je déteste ça, comme si c'était des compétences secondaires.
Oui. Ben, dans mon livre, il y a un sous-titre où, dès le départ, je dis « pour en finir avec
oui,
les soft
c'est
skills
ça.
Parce qu'ils ne sont pas soft ». Quand on fait une traduction libre de « soft », ça veut dire quoi? Ça veut dire « compétences douces ». Ouais, c'est pas très exotique, ça. Là, ça donne pas envie, tu sais. Et donc, l'autre qu'on appelle « hard skill », qui se traduit comme « compétence technique », qui veut vraiment dire ça, en fait. Moi, j'aime mieux l'appeler « compétence humaine mm-hmm. » ou ce qui est vraiment mon cheval de bataille, qui est pas nécessairement l'intelligence émotionnelle, mais les habiletés relationnelles. Comment rentrer en relation avec les autres et rentrer en relation avec soi-même au départ. Donc, c'est un peu ça.
Mais on parlait en introduction, justement, que nos codes de communication ont été bouleversés parce qu'on se parle beaucoup par écran interposé. Mm-hmm. J'étais curieuse de t'entendre sur comment on peut réussir à entrer davantage en relation à travers la froideur d'un écran.
Oui, bien plein de choses. La première, c'est qu'il faut être percutant et pertinent du début à la fin. Deux mots très importants. Percutant, chaud de boucan, mais sans contenu, on va être intéressé pendant quelques secondes, après on va décrocher. Donc, percutant, c'est important, mais aussi pertinent du début à la fin. Il faut être concis, hein? Il y a un écran qui nous sépare, il y a des téléphones qui nous entourent, il y a des enfants qui nous entourent et plein d'autres choses. Donc, il faut être pertinent et percutant. La deuxième chose, c'est qu'il faut commencer avec beaucoup d'énergie. L'énergie amène l'énergie, mm-hmm. comme toutes sortes de phénomènes. Hein, la générosité attire la générosité, etc. Ouais. Donc, l'énergie est très importante. Et le départ, c'est comme un show de musique. Le départ et la fin est très important. La même chose en mode virtuel. Et évidemment, d'être sympathique. C'est-à-dire que rapidement, l'autre personne là, se sent à l'aise avec mm-hmm. toi. Et c'est pour ça que je dis qu'en en mode virtuel, peut-être que la première étape, c'est pas la conférence Zoom. c'est peut-être le téléphone audio. Ouais. Parce que le téléphone audio, on est habitué, on peut être plus privé dans le téléphone audio versus un Zoom où là, on présente une partie de notre espace privé et notre personne également. Et c'est pour ça que je dis commencez avec le téléphone et regardez où est-ce que vous allez aller avec ça. T'sais.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est que pour les auditeurs plus âgés qui nous écoutent, ça a été un choc un peu tout ce Zoom-là. Et je pense à mon père qui est quand même assez jeune, mais je sais que lui préfère quand même le téléphone. Et je me rends compte à quel point, au fond, c'est une merveilleuse inventation. Inventation, là, j'ai inventé le mot.
C'est parfait. On invente en ce moment, c'est parfait.
C'est ça. Où justement, on est vraiment synchrone en même temps. On écoute alors qu'en texto, on se parle, puis là, on voit l'autre en train de réfléchir. Ouais. On n'est pas en contact comme tel direct.
Puis ça amène toutes sortes d'interprétations, les textos et les courriels. Mm-hmm. Moi, je prends le téléphone. Je crois sincèrement que le téléphone est l'outil le plus efficace pour être à l'aise et lancer notre message clair et précis. Maintenant, je dois faire une petite parenthèse. Moi, ma mère, maintenant, est rendue qu'elle me dit « On se fait-tu un Zoom? » La technologie s'est imposée dans nos vies et les technologies les plus sophistiquées deviennent routinières. Donc, c'est intéressant de voir ça, de voir que vraiment la technologie s'est imposée dans nos vies et qu'elle va y rester d'une manière ou d'une autre.
Mais ça nous implique justement d'être encore plus à l'aise avec la capacité de faire des liens. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans ton livre, c'est l'espèce de coffret de 5 outils essentiels. Mmh. On va prendre le temps de les décortiquer. Le premier, c'est l'autodiscipline. Et Dieu sait que ça m'a pris du temps à l'apprendre, celui-là, dans ma vie. J'en parle à mes fils, mais un peu plus tôt, tu parlais du soccer. Et je sais que ton coach de soccer, vous avez comme appris là, à faire des pompes là, avant de commencer à jouer. Ça t'est resté comme habitude?
Oui, tout à fait. Bien, premièrement, il y a beaucoup de gens qui me challenge, des auditeurs, des lecteurs, qui disent « Mais comment ça, dans le coffre à outils des habiletés relationnelles, t'as mis l'autodiscipline en premier? » Je dis « Mais avant être en relation avec les autres, tu dois être en relation avec toi-même. » Ça, c'est la première chose. Et après ça, c'est la plus grande liberté que tu t'offres. Parce que quand tu es autodiscipliné dans ce que tu fais, tu sacrifies pas quelque chose qui est dur sur le court terme pour quelque chose de facile. Tu fais la chose qui est plus difficile, mais que tu sais qu'à long terme, va te permettre de réaliser ce que tu veux. C'est pour ça que je dis que c'est la fondation de ta plus grande liberté. Et si qu'il y avait un outil dans le coffre à maintenir, c'est celui-ci en premier lieu. Parce que ça te permet d'être en relation avec toi-même. Et après, c'est de mettre le tempo. Une fois que tu comprends l'amour propre de ta personne, à quel point c'est important, ce qui représente les racines de l'autodiscipline, là, il faut que tu crées ce qu'on appelle des rituels qui vont devenir, qui vont mettre le tempo de ta vie. Et effectivement, 15 ans plus tard, je commence à être vieux, 15 ans plus tard, je fais encore mes 30 pompes le matin.
Pendant que le smoothie roule, c'est ça?
Tabarnouche, tu as fait tes devoirs, chapeau. Et effectivement, parce que tu as un élément déclencheur, le smoothie, le bouton est un élément déclencheur, et puis bang, je me mets à faire mes 30 push-ups, et tu sais quoi? Ça met le tempo sur tout ce que je fais. On appelle ça dans la science des habitudes clés qui vont en créer d'autres naturellement.
Oui, il y a comme une connexion. Puis j'ai lu justement une citation d'une étude de l'Université Duke aux États-Unis qui disait quelque chose comme 40% des actions accomplies chaque jour sont le fruit de l'habitude.
Tout à fait.
Tant que ça. Hein?
Ben oui, par exemple, te brosser les dents, c'est quelque chose que tu réfléchis pas, mais que tu fais exactement après une certaine chose. En te levant, tu fais peut-être ça ou après avoir terminé de manger. La douche, la même chose. Il y a plein d'habitudes clés qu'on fait, qu'on se réalise pas. Et en fait, la science est plus poussée que ça. J'ai donné un chiffre réservé dans mon livre parce que je voulais pas me faire challenger par personne. J'ai dit 40%, mais apparemment, c'est plutôt 60 à 80%. C'est quand même incroyable. Fait que l'idée, en pleine crise, c'est de transformer de mauvaises habitudes en bonnes habitudes. C'est le moment. Avez-vous vu à quel point il y a du monde qui marche dans la rue en ce moment? Mm-hmm. C'est devenu un rituel qui va se transposer dans leur quotidien. Après COVID, j'en suis convaincu.
Ah ben ça, c'est de les programmer, ces habitudes-là. Alors, j'ai la grande chance d'avoir mon invité Benoît Chalifoux en studio. Donc, on profite des pauses musicales pour discuter. Et je lui disais à quel point son livre m'a inspiré cette semaine à être à mon meilleur, à reprendre la course, justement. Et je lui disais, ne serait-ce que de faire le tour du bloc. Et j'ai envie de lui laisser la parole pour...
Ben moi, je te disais tout simplement, non, c'est pas ne serait-ce, c'est surtout juste faire le tour du bloc parce que tu vas créer une habitude qui va se transformer en rituel, qui va se transformer en un caractère, qui va mettre le tempo sur tout le reste. Et à un moment donné, tu y réfléchiras. Plus, ça va devenir un classeur et tu n'auras plus un moment exact pour le faire. Tu vas le faire dans la journée quand tu auras le temps, mais ça va être devenu une habitude qui va être transposable dans toute autre chose. Donc, un seul tour du bloc, s'il te plaît.
Un tour du bloc, c'est bon. Est-ce qu'on arrive à se programmer aussi à l'empathie? Parce que je lisais dans ton livre une étude de la psychologue Sarah Conrad. Ça m'a vraiment un peu étonnée parce qu'elle gère le programme interdisciplinaire sur l'empathie et l'altruisme. Et dans l'étude qu'elle a conduite, elle dit que les étudiants de la dernière décennie seraient 40% moins empathiques.
Que tous les autres générations.
C'est fou!
Tous les autres générations, on n'a pas vu de différence. Celle des années 2010, et je vous rappelle que les téléphones intelligents étaient omniprésents hein, à partir de cette année-là, de ces années-là. Tout à fait. Et la réponse, si on se pose la question pourquoi, ben c'est le téléphone intelligent principalement.
Wow.
Parce que pour être empathique, il faut quand même percevoir, user ce qu'on appelle notre radar social pour être capable d'identifier qu'une personne a une peine, un chagrin quelconque, et de pouvoir se rattacher à cette personne.
Et là, c'est loin un peu.
Ben, c'est parce qu'on n'est plus capable de regarder les gens dans les yeux. Moi, la nouvelle génération que j'enseigne à l'université ont du mal à s'exprimer, ont du mal à regarder l'autre personne dans les yeux. Et donc, ça commence par ça. Et si ça, c'est mis de côté, comment fait-on pour être empathique? Être empathique, c'est pas de se mettre à la place de l'autre.
Mm-hmm.
On ne peut pas. Tu as tes propres lunettes, j'ai les miennes. Et donc, c'est de retirer mes lunettes et d'essayer de comprendre par rapport à ta perception, ta vision, tes expériences. Donc, c'est d'aller dans ton espace secret à toi. Et il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir dire, mais une vraie relation va probablement pouvoir t'aider. Et donc, c'est de descendre dans ta cave.
Oui, j'ai lu ça, descendre dans la cave.
Dans la cave, dans ton espace secret, et juste d'y être. Des fois, par exemple, moi, j'ai une collègue qui va pas bien, qui a son mari qui est prêt avec un cancer fulgurant.
Mm-hmm.
Ben, une fois de temps en temps, je sais qu'elle aime le bon vin blanc. Je m'en vais déposer une bouteille sur le palier, je sonne, puis je m'en vais. Et ça, c'est ma manière de dire, Chantal, on peut pas se voir.
Mm-hmm. Mais on est ensemble, je pense à toi. Mais justement, le temps des fêtes, c'est souvent la période où on parle de générosité, il y a souvent les dons, les guignolés, tout ça. Et dans ton livre, tu dis à quel point il y a plusieurs manières d'être généreux. Je voulais t'entendre là-dessus.
Oui. Bien, premièrement, moi, je pense que le geste le plus généreux, c'est ce que j'appelle le geste de générosité désintéressé.
Mm.
Ça veut dire que tu fais un geste et tu t'en vas avant même que la personne l'ait perçu. Ça, c'est magique. Je fais ça souvent quand je suis dans un café, dans une file d'attente. Payer le café de la personne en arrière de moi, puis je vais partir. Maintenant, là, les gens disent, ouais, mais on est en confinement, on fait comment? Mais il y a quand même des drive-thru, hein, où on va payer avec notre voiture.
Mm-hmm.
Puis selon le montant, je m'informe, je dis combien c'est la facture en arrière de moi, j'ai quand même des limites. Puis je vais payer. Je te donne un exemple. Hier, j'étais à l'épicerie et la dame à la caisse, elle était d'une gentillesse.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi? J'ai eu le sentiment. J'ai dit, madame, pourriez-vous me faire une faveur gentille comme toi? Elle dit, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, vous voyez ce 20$? J'ai dit, pouvez-vous le séparer entre vous et l'emballeur, s'il vous plaît?
Mm-hmm.
Et je suis parti. Je ne l'ai pas laissé me dire merci.
Ouais.
Et ça fait du bien parce qu'on sécrète ce qu'on appelle l'oxytocine.
Mm-hmm.
L'oxytocine, qui est l'hormone là, qui nous fait du bien. C'est comme quand je te serre fort dans mes bras. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait.
Ouais.
Hein? Mais un geste de générosité provoque ce même sentiment parce qu'on sécrète ce qu'on appelle l'oxytocine dans notre corps. Et ça peut être par le temps qu'on donne à quelqu'un.
Mm-hmm.
Ça peut être par un geste de générosité d'un produit quelconque, un café, une bouteille de vin.
Mm-hmm.
Ça peut être aussi par notre talent.
Oui, offrir ses compétences.
Exactement. Ça peut être également, en fait, ça peut être toutes sortes de choses, des mises en relation. C'est gagnant-gagnant. Donc, il y a toutes sortes de manières d'être généreux. Et je crois qu'en ce moment même, il n'y a pas un meilleur moment pour le faire.
Absolument. Donc, comment on peut muscler nos habiletés relationnelles, là? Parce qu'on est des êtres humains, on a besoin les uns des autres. Mmh. Donc, comment arriver à les muscler?
Bien, le point de bascule, tu sais, après le coffre à outils, pour moi, le point de bascule, et c'est ce que j'ai réalisé le plus en écrivant ce livre, à quel point c'est vraiment, véritablement l'essence même du développement des habiletés relationnelles, c'est la connaissance de soi. Et pour être en connaissance de soi, il faut être entouré de gens là, qui veulent nous améliorer. Il faut être capable d'adresser nos sensibilités, ce qu'on appelle les faiblesses, j'aime mieux les appeler nos angles morts, nos sensibilités, d'être capable de les adresser, d'encourager les gens qui nous aiment à nous pousser à être une meilleure version de soi-même. Il existe une panoplie d'outils, par exemple un livre, faire des réflexions sur qui on est, qui on veut devenir. Et donc, la connaissance de soi multipliée par étirer sa zone de confort pour nous découvrir des angles morts, nos talents cachés, comme toi, par exemple, animatrice de radio, comme tu le fais si bien. C'est un talent que tu avais, que maintenant est rendu germé. C'est vrai. Et donc, après ça, quand on étire notre zone de confort, on étire notre version de qui on est vraiment.
Benoît, en terminant, une dernière question. On parle tout le temps des fameuses résolutions. Et j'ai comme l'impression que toi, tu as une manière à toi d'adresser ce sujet-là.
Oui, tout à fait. La finalité, si tu veux.
Oui.
La finalité des relations, oui. Pour moi, la finalité des relations, c'est que si vous me demandez, si tu me demandes est-ce que ton compatriote est heureux, je pourrais te dire, et j'ai juste une filière à piger. Je te poserai pas la question est-ce que c'est un homme ou une femme, quelle est sa religion, c'est quoi qu'il y a dans son compte bancaire. Ce que je poserais comme question, c'est quel est son réseau social, et l'intensité des relations avec qui il est. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est les relations. Nous sommes la bébite la plus sociale sur Terre et le social, l'intensité de notre relation, nos vraies relations, pas le nombre d'amis Facebook.
Benoît, merci d'avoir été une belle bibitte sociale. C'était l'auteur d'Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles.